Parce que, d'une part, j'aime toujours parler d'épilepsie parce que je pense que c'est vraiment important de démystifier la classification des syndromes épileptiques et la prise en charge des enfants épileptiques, parce que dans la plupart des cas, un raisonnement simple permet d'aboutir. Et d'autre part, parce que effectivement, il y a un lien évident, au moins dans la représentation qu'on peut se faire, entre l'épilepsie et le sommeil. Puisque, par exemple, on voit bien que dans les techniques d'exploration, tout ce que vous a présenté José Medina, toutes ces techniques sont utilisées dans l'exploration de l'épilepsie, couplées avec de plus nombreuses voies d'électroencéphalographie. Mais il y a vraiment une grande communauté dans les techniques d'examen. Enfin, il y a aussi un intérêt particulier entre l'épilepsie et le sommeil, puisqu'on sait que durant cette période de sommeil, il y a une modification de la vigilance. Dans l'épilepsie, il y a effectivement parfois une perte de conscience, ou en tout cas une modification de la vigilance. Et on sait que ces modifications de vigilance sont propices, dans tous les cas, à la survenue de crise. Alors, puisque le diaporama est maintenant lancé, on va commencer cette présentation sur épilepsie et sommeil. Alors, on peut voir les choses dans plusieurs sens, entre l'épilepsie, le sommeil, les crises, le sommeil, qu'est-ce qui influence quoi? On va essayer de faire dans les deux sens, parce que je n'ai pas trouvé de meilleure façon. Alors, comment le sommeil influence l'épilepsie? Alors, ça veut dire comment le sommeil influence les crises, comment le sommeil influence les syndromes épileptiques et comment le sommeil influence la survenue de ces crises. Alors, pour ce qui est en particulier des manifestations électroencéphalographiques, le sommeil, c'est un activateur des anomalies électroencéphalographiques, de beaucoup d'anomalies, pas seulement celles qui sont spécifiques de l'épilepsie, et en particulier le sommeil lent et le sommeil lent léger est un moment de la vigilance où on voit bien mieux parfois les anomalies paroxystiques interictales. Parfois même, lorsqu'il n'existe pas d'anomalie durant la veille, chez un patient chez qui on suspecte une épilepsie, il est très intéressant d'avoir ce type de sommeil enregistré parce qu'on peut démasquer des anomalies qui ne se voient pas du tout pendant la veille. En particulier, le sommeil peut encore être sensibilisé après une dette de sommeil. C'est vrai que c'est différent et là, il faut bien savoir ce qu'on fait quand on demande un tracé de sommeil. Est-ce qu'on veut étudier le sommeil physiologique de l'enfant? Et dans ce cas-là, on va essayer de se mettre dans les conditions les plus physiologiques possibles. Et dans un autre cas, si on veut étudier ou tenter de trouver des arguments pour une épilepsie de l'enfant, alors l'objectif n'est pas forcément d'être physiologique. L'objectif, c'est de mettre de son côté le maximum de chances pour voir des anomalies. Et la dette de sommeil, l'enfant qu'on lève tôt le matin, l'adolescent qu'on couche tard le soir et qu'on lève le matin très tôt, ou alors simplement le nourrisson qu'on lève tôt, parce qu'on adapte cette privation de sommeil, évidemment en fonction de l'âge de l'enfant, permet encore d'activer les anomalies paroxystiques. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans le sommeil paradoxal, le plus souvent, il n'y en a plus d'anomalies. Alors, on va faire un petit tour des syndromes épileptiques, je vous ai dit que j'aimais bien ça, pour voir ceux qui ont un lien particulier dans l'horaire de survenue des crises avec le sommeil. Alors on commence par le plus fréquent, puisque c'est la plus fréquente des épilepsies partielles de l'enfant, l'épilepsie partielle bénigne à pointe centrotemporale, qui a perdu son nom français d'épilepsie partielle rolandique, qui est bien plus pratique pourtant, qui intéresse tout de même un cinquième des enfants épileptiques d'âge scolaire, avec des manifestations qui cliniquement sont évidentes quand on a la chance qu'elles soient décrites par l'entourage, avec des enfants qui, la nuit, viennent voir leurs parents en fin de nuit, comme ça. Ils ne peuvent pas. Ils bavent. Ils voudraient bien dire quelque chose. S'ils ont la chance, ou si on a la chance de les interroger juste après, ils disent qu'au départ, ça a picoté dans la bouche. Puis après, ça a donné une crise motrice et mi-corporelle. Et puis ils vont tomber, ils vont éventuellement généraliser. Et c'est vrai qu'il faut se méfier toujours des enfants qui arrivent à l'hôpital pris en charge par le SAMU, qui les prend en charge très bien, mais qui ne voient souvent que la fin de la crise et qui va décrire une crise généralisée parce qu'on n'a pas vu le début. Et le plus souvent, ces enfants qui viennent la nuit ou en fin de nuit à l'hôpital pour une crise, c'est bien heureusement ce type de crise qui ont la caractéristique, lorsque la clinique est celle qu'on a décrite et quand l'électroencéphalogramme est celui qu'on voit ici dans le sommeil avec des pointes qu'on voit sur les dérivations du bas. De toute façon, on n'est pas là pour discuter de G, ça n'a pas d'intérêt, c'était simplement pour faire joli sur la diapo. Mais en tout cas, ces pointes qu'on voit pendant le sommeil, si on a cette conjonction électroclinique, on n'est pas obligé de demander une imagerie, sachant que maintenant, c'est quand même difficile de parler d'épilepsie à des parents sans proposer un scanner, parce que ça génère un stress énorme, et que j'avoue que, pour ma part, assez facilement, je demande une imagerie simple, un scanner, pour couper court et permettre ensuite de se concentrer sur la prise en charge de l'enfant, d'autant qu'on va proposer, dans un premier temps, de ne pas donner de traitement à ces enfants. C'est ces pointes-là qui sont, qu'on voit pendant le sommeil non léger. Alors, un autre type d'épilepsie avec des crises du sommeil, ce sont les épilepsies frontales nocturnes autosomiques dominantes, qui sont effectivement un syndrome qui est nettement plus rare, mais qui est très intéressant parce que longtemps, ces manifestations paroxystiques ont été prises pour d'autres manifestations, soit physiologiques, soit paraphysiologiques, du sommeil, avec un début dans l'enfance qui est fréquent, et surtout une histoire d'un papa ou d'une maman qui a fait la même chose et qui parfois n'a été alerté que par son conjoint, parce que il se passe des choses dans la nuit, mais comme on s'en souvient pas forcément, eh bien, ça passe un peu inaperçu, d'autant qu'une crise, quand c'est bref, on n'a pas vraiment de conséquences. Ce sont des manifestations qui sont hypermotrices, comme souvent les épilepsies, enfin les crises frontales en tout cas, ou toniques, et qui surviennent par orage d'épisodes brefs, le plus souvent lors des changements de vigilance les plus importants à l'endormissement ou au réveil. La caractérisation génétique est maintenant complètement effectuée, et on connaît, et c'est ça l'intérêt de tous ces syndromes épileptiques, on connaît précisément la pharmacosensibilité de cette épilepsie, et une fois qu'on en a le diagnostic, on peut informer les patients et on peut surtout les traiter au mieux. Alors pour rester dans les syndromes fréquents, parce que le but c'est pas de voir des raretés, l'épilepsie myoclonique juvénile, c'est bien l'exemple de l'épilepsie de l'adolescent, ou en tout cas d'un groupe d'épilepsie de l'adolescent. Toutes ces épilepsies généralisées idiopathiques qui débutent donc à la fin de la grande enfance, chez des enfants qui ont un développement normal et qui doit rester normal ensuite. Les crises associent diversement des myoclonies matinales et ou pas des crises généralisées au réveil et ou pas des absences. Et elles sont le plus souvent matinales, très liées donc au réveil et très liées aussi à la dette de sommeil. C'est typiquement la première crise de l'adolescent de 17 ans qui a passé sa première nuit en boîte et qui a bu de l'alcool. Parce que tout ça, ça le met dans de bonnes conditions pour révéler les choses. Avec des myoclonies matinales qui sont parfois négligées depuis longtemps, et si on interroge le patient pour sa première crise généralisée qui, elle, le conduit à l'hôpital, on lui demande si vraiment le matin, il n'y a pas eu des moments de lâchage d'objets. Et s'il dit ça, on peut être très rassurant d'emblée, parce que si on arrive à bien faire décrire ça, eh bien on sait que ce qui s'est passé le jour où il est venu à l'hôpital, qui est plutôt ça, la crise qu'il a est myoclonique, puis tonico-clonique généralisée, on va quand même pouvoir rassurer et dire à la famille qu'on est tout de même dans une épilepsie idiopathique avec un bon pronostic, avec un seul détail, c'est que souvent une épilepsie qui est pharmacodépendante et on arrive très rarement à arrêter le traitement. Ce sont des patients chez qui on doit devoir convaincre un traitement pour des dizaines d'années. Alors, ça c'est la classification des crises. Pour vous montrer les épilepsies qui ressemblent à l'épilepsie myoclonique juvénile, qui sont celles-ci, l'épilepsie absence de l'adolescent et l'épilepsie grand mal du réveil, en fait on aurait pu dans la classification des crises faire un gros paquet et dire c'est des épilepsies généralisées idiopathiques de l'adolescent, et puis dans celle-ci il y a tous les types de crises, dans celle-ci il n'y a que des crises grand mal au réveil, et dans celle-ci il y a le plus souvent des absences. Et ce qui est intéressant, c'est que pour en faire le diagnostic, lorsqu'on n'a pas d'anomalie à l'électroencéphalogramme de veille, il est très intéressant de faire un électroencéphalogramme de sommeil, parce qu'au moment du réveil, on voit très souvent et de manière assez non pas spécifiques, parce qu'on peut avoir des anomalies EEG sans jamais avoir d'épilepsie, mais en tout cas très évocatrices de bouffées de pointe-onde lors du réveil. Donc, chez les patients qui font une première crise, donc qui ont fait quelques manifestations, qui ont des myoclonies, on ne sait pas trop, si on n'a rien pendant la veille, c'est très intéressant de faire un EEG de sommeil. Et l'autre chose, c'est que l'EEG a l'avantage d'être quelque chose de tangible pour ces patients qui sont jeunes et leurs parents qui n'ont pas vraiment envie d'un traitement. Si on peut leur montrer par un examen vraiment tangible qu'il existe des anomalies, alors ça peut être un moyen de convaincre. Malgré tout, c'est souvent assez difficile et souvent il y a une observance qui n'est pas très bonne au début. Alors, pour parler d'autre chose, mais Catherine Barondiou vous en parlera plus tout à l'heure, puisqu'elle va vous parler de troubles des apprentissages et de sommeil, dans toutes les épilepsies, mais même dans les épilepsies partielles bénignes, celles dont je vous ai dit tout à l'heure, tout va bien, cet enfant il fait une crise la nuit, il va peut-être en faire plein, mais on va dire aux parents, on ne va pas vous traiter. Il faut quand même prévenir les parents, il faut quand même dire que, normalement, l'épilepsie ne doit pas affecter les apprentissages. Et si on a un doute, si l'enfant perd au niveau des performances, ou alors même si un enfant a des performances qui chutent sans jamais avoir fait de crise, qui a été remarquée par l'entourage, il faut faire un EEG de sommeil pour voir si on n'a pas ce type d'activation très importante des anomalies interrectales pendant le sommeil qui réalise soit le syndrome de pointe-onde qu'on dit d'une sommeil, soit le syndrome de Landau-Kleffner, mais ça je laisserai Catherine en parler. Et ce type d'activation des anomalies interictales, pour être un peu schématique, ça désorganise l'activité cérébrale, ça désorganise la mémorisation, les apprentissages, mais surtout ça se traite. Ça se traite, mais pas avec des antiépileptiques classiques qui, au contraire, peuvent tous aggraver. Alors, est-ce qu'il y a d'autres épilepsies avec un lien avec le sommeil? Oui, il y en a d'autres qui sont fréquentes. Là, j'ai remis des vidéos d'enfants qui font des spasmes pour montrer qu'à gauche, on a un enfant qui fait des spasmes très typiques, très évocateurs, et qu'à droite, ils sont beaucoup plus frustres. Mais que dans l'interrogatoire des spasmes, il y a quelque chose qui est vraiment très important. Ce sont des manifestations qui surviennent au réveil. Ces enfants qui sont parfois pris pour des reflux gastro-œsophagiens, quand on arrive à faire dire que ça arrive en salve et que ça arrive spécifiquement lié au sommeil, en particulier au réveil, jamais pendant le sommeil, alors il faut vraiment avoir un enregistrement vidéo, au mieux un EEG vidéo, pour caractériser les choses. Parfois, on a la chance de dire aux parents, non, finalement, on s'est trompé. Et puis, quand c'est ça, ça permet de les prendre en charge au mieux, parce que le délai de traitement est un des facteurs pronostiques. Et ce qui est là aussi intéressant, c'est que l'électroencéphalogramme doit associer chez ces enfants, comme chez tous les petits-enfants, de la veille, du sommeil lent, du sommeil paradoxal, parce que l'ipsarythmie, qui est donc typiquement le tracé associé dans ce qu'on peut appeler le syndrome de West, est modifiée par les stades de vigilance. Elle est souvent fragmentée pendant le sommeil lent. Elle peut même disparaître dans le sommeil paradoxal. Donc on ne peut pas interpréter quelques minutes de tracé pour dire voilà, cet enfant a une ipsarythmie ou pas. Il faut vraiment faire une analyse plus complète et plus longue de son électroencéphalogramme. Pour rester dans les encéphalopathies épileptogènes, celles qui ont un lien en tout cas avec le sommeil, le syndrome de Lennox-Gastaut, qui peut survenir chez un enfant qui n'a aucune lésion cérébrale, mais qui peut survenir aussi chez un enfant cérébro-lésé, qui associe plusieurs types de crises, tout type de crise, en particulier des absences atypiques, des chutes toniques ou atoniques. C'est une des épilepsies qui fait tomber, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup des épilepsies qui font tomber. Il y a le syndrome de West, quand on fait un syndrome de West tard et qu'on fait des chutes en rapport avec les spasmes. Il y a le syndrome de Lennox-Gastaut, lorsqu'on fait des chutes atoniques ou des chutes toniques. Et il y a les pointons continus du sommeil. Et puis d'autres types de myoclonie également. Et dans le syndrome de Lennox-Gastaut, en tout cas, un des moyens de faire le diagnostic et de l'affirmer, en dehors des anomalies intercritiques pendant la veille, c'est de chercher des crises toniques nocturnes, qui sont sûrement pas pathognomoniques, mais très évocatrices. Et parfois même, on n'a pas une crise tonique, mais on a simplement, pendant le sommeil, je le vois mal, je suis désolé, ce type d'aplatissement du tracé que les électroencéphalographistes ont l'habitude de voir dans les crises toniques, sans même qu'on voit de manifestations cliniques. Alors on pourrait dire, mais à quoi ça sert d'aller dans une classification comme ça pour dire c'est un syndrome de Lennox-Gastaut ou ça n'en est pas un finalement? Est-ce que ça a vraiment une importance? C'en a une, parce que ça permet d'orienter au mieux les traitements. On connaît bien le profil de pharmacosensibilité du Lennox-Gastaut. Il n'est pas bon, c'est vrai. Mais avec les traitements appropriés, certains enfants, c'est rare mais ça arrive, peuvent bien évoluer. Ça évite aussi, surtout, de prendre des syndromes de Dose, qui sont un autre type d'épilepsie de l'enfant, pour des Lennox et Gasto, parce qu'eux ont dans 50% des cas une évolution favorable et le discours sera très différent vis-à-vis de la famille. Alors, la crise tonique du Lennox-Gasto n'a rien de très particulier, si ce n'est qu'elle fait comme ça. Elle a vraiment un caractère. Celle-ci est assez représentative, malheureusement. Il est cadré un peu serré et on voit mal le mouvement des bras. Ça peut être très bref comme ça, une crise tonique. Ça peut être très long, effectivement, mais ça peut être très très bref. Et ça peut être rien du tout, ça peut être simplement électroencéphalographique. Alors après, on peut discuter des heures pour savoir si c'est une vraie crise, s'il y a seulement quelque chose sur le G. L'intérêt, c'est pas ça maintenant. Alors, quel autre intérêt entre l'épilepsie et le sommeil, puisqu'on parlait d'épilepsie, de sommeil, pourquoi je vous parle de parasomnie? D'une part, parce que c'est très intéressant, mais on ne s'étendra pas, mais souvent parce que c'est un diagnostic différentiel important. Ces enfants qui font des choses bizarres pendant la nuit, ils viennent effectivement parce qu'ils font des choses bizarres pendant la nuit. Leurs parents ne viennent pas en disant il fait des crises, il fait des choses bizarres. Alors, les parasomnies, il faut savoir qu'elles sont très fréquentes, mais tout le monde, vous le savez tous, qu'elles sont beaucoup plus fréquentes que chez l'adulte. Tous les mouvements associés sont parfois frustes, parfois il n'y en a pas, puisqu'il y a en particulier dans le sommeil paradoxal, il y a des parasomnies qui sont justement caractérisées par l'absence de possibilité de bouger. Vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, alors qu'on se sent complètement éveillé avec parfois des hallucinations. Mais on peut avoir aussi des manifestations motrices complexes et démonstratives dans le sens bruyant, quoi. Mais dire bruyante pour quelque chose de moteur, ça me semblait pas judicieux. Alors, dans un article de l'année dernière, il y avait cette tentative de tableau, mais finalement, toutes ces tentatives, elles remplacent pas, à mon avis, l'interrogatoire qui permet de se faire une idée clinique. Parce que finalement, si on regarde ce tableau, où ne sont pas données toutes les parasomnies, mais simplement peut-être les plus fréquentes, les trois parasomnies qui surviennent dans le sommeil lent, le somnambulisme, les éveils confusionnels, où il y a vraiment une faute, il faut mettre un S à éveil ou enlever celui de confusionnel puis enlever le D, et les terreurs nocturnes, et les cauchemars qui sont des rêves d'angoisse qui surviennent dans le sommeil paradoxal, donc qui sont complètement différents des terreurs nocturnes qui surviennent dans le sommeil lent, ce qui explique qu'on se souvient parfois de son cauchemar, puisque c'est un rêve d'angoisse, alors qu'on ne se souvient pas de sa terreur nocturne, puisqu'on est dans le sommeil lent. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce tableau tout de même, c'est que la chronologie des manifestations paroxystiques inhabituelles permet de se donner une idée. On dit que les parasomnies du sommeil lent léger surviennent dans le premier tiers de la nuit. C'est pas un hasard, c'est parce que dans le premier tiers de nuit, on a beaucoup plus de sommeil lent léger, et plus la nuit s'en vient, plus on rêve, plus on a de sommeil paradoxal. Alors que les cauchemars, forcément, puisqu'elles surviennent dans le sommeil paradoxal, c'est plutôt la deuxième partie de nuit. Et que les crises épileptiques, c'est n'importe quand, et dans quel stade de sommeil, n'importe lequel, surtout le sommeil léger stade 2. Pourquoi ? Il y a une hypothèse physiopathologique qui est intéressante. La formation réticulée pontine dérimerait dans le sommeil lent léger la boucle thalamo-corticale, et les volées afférentes de potentiel qui vont vers le cortex depuis le thalamus et qui créent les figures physiologiques du sommeil, que sont les spindles, ou les fuseaux de sommeil, sont des volets hypersynchrones qui vont favoriser, puisque la crise d'épilepsie, c'est l'hypersynchronie neuronale, qui donc vont favoriser les crises. Alors, simplement pour ne pas oublier qu'il y a des bébés qui peuvent faire des myoclonies très impressionnantes, parfois beaucoup plus impressionnantes lors de l'endormissement, qui peuvent les faire aussi dans le sommeil calme, et que parfois c'est simple, et avec l'interrogatoire, on arrive assez facilement à dire « Oh, ce sont des myoclonies du sommeil, madame, votre enfant va bien », et il faut rassurer. Puis parfois, quand on a un doute, il ne faut pas hésiter à confier l'enfant pour une exploration vidéo EEG, et comme ça, on a un diagnostic de certitude. C'est quand les myoclonies sont très abondantes et quand elles sont très massives, rassurer beaucoup la famille, c'est difficile, et mieux on le fera, mieux tout ira. Alors, pour faire le lien avec les autres pathologies du sommeil, enfin pas toutes les autres, Le lien entre syndrome d'apnée du sommeil et épilepsie, il est important. Alors, pourquoi ? Parce qu'on pense que les syndromes d'apnée du sommeil augmentent la fréquence des crises chez les patients épileptiques, par le biais de l'hypoxie, mais aussi, surtout, par le biais des réveils fréquents, les changements de vigilance. Et surtout, c'est important de les prendre en charge, parce que quand on les prend bien en charge, et Cyril Schoeder vous en parlera tout à l'heure, eh bien, on verra une diminution du nombre de crises. Alors, on fait le chemin inverse maintenant, mais il sera beaucoup moins long. On va parler des conséquences de l'épilepsie sur le sommeil. En quelques mots, la première conséquence à laquelle on pense, c'est que les troubles du sommeil, bien sûr, ils pourront être dus aux crises, à l'épilepsie, au syndrome, au traitement, ils vont être surtout dus à l'angoisse de ce nouveau diagnostic pour les parents, pour l'enfant aussi, et que très souvent, et il faut poser la question, les parents se remettent à dormir avec leur enfant, voire la mère va dormir avec son enfant et le père reste dans son lit. Et donc, c'est quelque chose dont il faut parler aux parents en leur disant, bon, vous allez peut-être faire ça pendant 15 jours en rentrant chez vous parce que vous ne pouvez pas faire autrement, et puis ben, vous faites au mieux. Mais très vite, il faut que vous vous disiez que ça n'est que transitoire. Très vite, il faut que votre enfant dorme là où il dormait avant et que vous, vous dormiez là où vous dormiez avant également. Alors, sur la qualité du sommeil, on sait que les crises fréquentes désorganisent les cycles de sommeil, augmentent la somnolence diurne, et en améliorant les traitements antiépileptiques, on améliore la vigilance, on diminue la dette de sommeil, et donc on diminue, c'est comme une boucle, le nombre de crises. Les crises frontales, on a l'habitude qu'elles sont plus souvent nocturnes que les crises temporales, mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir que dans les crises temporales mésiales, en particulier droites, elles sont responsables beaucoup plus souvent que les autres de somnolence diurne et de désorganisation des cycles de sommeil. Et on sait, puisque ça a été étudié, qu'il y a une diminution du sommeil paradoxal s'il y a une crise le jour précédant l'enregistrement du sommeil. Il ne faut pas oublier que dans le sommeil, dans l'épilepsie plutôt, on va souvent donner des médicaments, pas toujours, et qu'on va perturber la physiologie du système nerveux central et on va perturber le sommeil. Alors la somnolence diurne, c'est un effet fréquent et habituel de beaucoup d'antiépileptiques, pas de tous, mais il modifie aussi l'architecture du sommeil, le cycle veille-sommeil. Alors c'est bien connu pour le phénobarbital, mais même d'autres médicaments dont on se méfie moins, comme la carbamazépine, montrent, en tout cas surtout au début de traitement, une fragmentation du sommeil paradoxal. Il faut savoir aussi que dans les nouveaux antiépileptiques, certains ont beaucoup moins ces effets-là, et en particulier, la lamotrigine et la gabapentine améliorent la qualité du sommeil. Mais attention, ils améliorent la qualité du sommeil de patients épileptiques. On ne sait pas on dit pas qu'ils améliorent la qualité du sommeil de patients qui ne le sont pas. Une autre chose, parce qu'on n'étudie jamais l'épilepsie pour elle-même, mais l'enfant en général, les antiépileptiques, certains diminuent le tonus des voies aériennes supérieures, favorisent les apnées obstructives, augmentent les éveils, et donc augmentent les crises. Alors, en conclusion, difficile de conclure, si ce n'est de dire que c'est important d'étudier le sommeil chez l'enfant, et encore plus important d'étudier chez l'enfant épileptique, pour le diagnostic positif de crise d'épilepsie, pour le diagnostic différentiel avec les parasomnies, pour le diagnostic syndromique, puisqu'on a bien vu que certains types de crises, par rapport à certains moments de la vigilance, ça permet de poser un diagnostic de syndrome qui n'est pas qu'une collection de papillons, qui permet de guider le traitement, pour évaluer le retentissement de l'épilepsie, en particulier pour l'activation des anomalies pendant le sommeil à la recherche d'une complication qui est traitable, et puis pour rechercher des comorbidités, comme les apnées du sommeil, qu'il faut prendre en charge pour elle-même, mais aussi pour améliorer le patient et son épilepsie. Merci.
Bien, merci Emmanuel pour cette présentation sur l'épilepsie et le sommeil. Je pense qu'il a dû susciter des réflexions, peut-être des questions pour Emmanuel sur ce sujet. C'est important de pouvoir effectivement donc explorer les enfants épileptiques. Les explorations que l'on propose maintenant dans le cadre donc, du sommeil sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. Je crois qu'elles sont incontournables. Y a-t-il des commentaires ou des questions,
Michel? Je vais demander à Emmanuel si c'était systématique, c'est-à-dire maintenant, tout enfant épileptique... y compris, je m'excuse, les épilepsies à point de relandique parce que je sens trop temporal, donc est-ce que c'est systématique? Ça fait partie automatiquement du bilan de départ ou
systématique? En systématique, je ne sais pas vous dire, parce que nous, on vit au CHU, là, on vit dans un certain luxe. Malgré tout, je crois que jusqu'à 4 ans, et c'est ce qu'on essaye de faire systématiquement, jusqu'à 4 ans, tout enfant qui vient pour une première crise, une suspicion de crise, aura un tracé de sommeil, parce qu'on a la possibilité de le faire.
Nocturne.
Alors, jusqu'à peu, il avait un tracé le plus souvent de sieste. C'est assez facile pour le nourrisson, par exemple. C'est très facile d'avoir un tracé de sommeil diurne. Il suffit de leur donner un bib, et puis ils dorment, et puis on enregistre, et puis voilà. C'est vraiment des choses qu'il faut faire en toute simplicité. Bien sûr, si on voulait étudier le sommeil, mais moi je ne suis pas spécialiste du sommeil, il faut avoir du sommeil le plus physiologique possible, et en particulier pour les plus grands, il vaut mieux un sommeil, un vrai sommeil de nuit. Pour l'épilepsie, c'est particulier. En particulier, on a bien vu que si on a une dette de sommeil, c'est pas du tout physiologique, on va encore sensibiliser l'examen. Donc jusqu'à assez tard, on arrive à avoir des sommeils de sieste chez des grands enfants, ce qui nous permet d'avoir plus de débit, parce que même après 4 ans, on aime bien avoir au moins une fois du sommeil, surtout s'il y a des troubles des apprentissages. Et depuis peu, on peut également faire des EEG vidéo de nuit continue. Et donc on en fait de plus en plus souvent, mais c'est vrai qu'on ne les fait pas spécifiquement aux tout-petits, parce que souvent pour le tout-petit, notre jet de sieste nous suffit bien amplement, et pour les plus grands en particulier, pour qui il est difficile d'obtenir du sommeil de sieste dans un laboratoire, parce qu'ils viennent stressés, donc voilà. Mais sur le caractère systématique, si on voulait être dogmatique, il faut que les enfants de moins de 5 ans et un sommeil quand ils ont fait une crise d'épilepsie. Après, évidemment, on a de la chance.
Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à l'épilepsie et nouveau-né, par rapport à ce qui vient d'être dit sur le sommeil du nouveau-né? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières?
Alors, l'épilepsie si on parle du nouveau-né en particulier, l'épilepsie du nouveau-né, c'est quelque chose de très particulier, et même à part de l'épilepsie du nourrisson. La plupart des crises d'épilepsie, ou des crises, on va dire des crises d'épilepsie, parce que j'aime pas crise convulsive, on a l'impression qu'on cache un tabou, la plupart des crises d'épilepsie du nouveau-né sont des crises occasionnelles, et donc, dans le raisonnement, on n'est pas face à... On ne cherche pas un syndrome, on ne cherche pas à affiner au niveau au niveau de la pharmacologie, on cherche à traiter et ensuite à voir l'évolution et à trouver la cause des crises. Alors il y a effectivement l'hypocalcémie, l'hypolycémie, tout ce que vous connaissez, les accidents vasculaires cérébraux qu'il ne faut pas oublier à J1, J2, les enfants qui font des crises partielles et mi-corporelles jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On disait que les enfants ne pouvaient pas faire des crises partielles révélatrices de la topographie de leur crise, en tout cas les nouveau-nés, alors qu'on sait qu'ils peuvent. Pour ce qui est des crises du nouveau-né, c'est vraiment autre chose. L'épilepsie du nouveau-né, c'est quelque chose de beaucoup plus rare, mais qui existe. Les vraies épilepsies à début néonatal, il n'y en a que 4 syndromes décrits, 2 qui sont catastrophiques, 2 qui sont d'excellents pronostics. C'est les convulsions du 5e jour, qu'elles soient, et puis les convulsions familiales bénignes, sachant que les convulsions du 5e jour, on n'en voit quasiment plus jamais, et que c'est un syndrome qui est maintenant rediscuté. Et d'un autre côté, les épilepsies avec des myoclonies ou sans myoclonies, mais en particulier avec des spasmes et un tracé de suppression burst, ces épilepsies catastrophiques dont on sait qu'elles évoluent constamment mal et qu'on aime bien classer dans un type ou dans l'autre, parce qu'on sait que l'enquête étiologique est différente dans un cas, parce que quand il y a des myoclonies, on va plutôt chercher une maladie, pour être un peu schématique, plutôt une maladie métabolique, alors que quand on n'a pas de myoclonie, on va plutôt chercher une malformation cérébrale. Et ensuite, dans l'information aux parents, l'information génétique aux parents aussi, ça va beaucoup changer les choses. Mais pour en revenir au sommeil, quand on a vraiment une épilepsie du nouveau-né, ce qui est rare, puisque le plus souvent on a des crises occasionnelles du nouveau-né, il faut effectivement enregistrer longtemps. Et la règle pour l'électroencéphalographie du très jeune enfant, c'est d'avoir toujours une période de veille, une période de veille agitée, une période de veille calme, une période de sommeil agité, une période de sommeil calme. Ça veut dire qu'un bon EEG d'un nouveau-né ou quasi-nouveau-né, ça ne dure pas 20 minutes ou une demi-heure comme un adulte, ça va durer 1h30 d'enregistrement de qualité avec tous les stades de vigilance. Et c'est donc très contraignant.
Il n'y a pas d'autres questions ?
précision sur les myoclonies d'endormissement. Est-ce que c'est un diagnostic clinique ou on doit se faire aider d'un EEG systématique ou non?
Je ne pense pas qu'il faille faire des EEG systématiquement, mais ça, on peut en discuter entre nous. Moi, je ne pense pas non plus. Mais souvent, le plus souvent, c'est typique. Ils font quelques myoclonies qui sont assez banales. J'ai des enfants qui vont très bien. On les voit ou on ne les voit pas. Mais les parents décrivent deux secousses lors de l'endormissement. Et là, il suffit de leur dire qu'ils ont probablement donné des coups de pied à leur conjoint un jour, ou alors que leur conjoint leur en a sûrement donné lors de l'endormissement. Tout le monde a eu cette expérience de se réveiller en sursaut avec une myoclonie à l'endormissement pour leur faire percevoir ce que c'est que ces parasomnies bénignes. Et plus souvent, on ne fait pas d'examen. En revanche, chez les tout-petits, surtout quand ce sont des manifestations extrêmement brutales et extrêmement bruyantes, c'est difficile de rassurer. Puis parfois, sur certaines vidéos, c'est vraiment impressionnant, ces myoclonies. Et en fait, je crois qu'on peut se fier à soi-même. Le plus souvent, on ne fait rien comme examen complémentaire. Et quand on a un doute, il ne faut pas hésiter à le faire. Pas de meilleure réponse que ça, qu'il n'en ait pas une, je ne me rends bien compte.